Un grand bonsoir à toutes et à tous, il est 20h pile en ce mardi soir. Merci d'être avec nous sur BFM Business, à la radio, à la télé, chaque soir en direct, mais aussi, bien évidemment, à votre disposition, les podcasts et les replays qui vous attendent juste à la fin de cette émission. Et puis à 22h, la diffusion de Tech & Co, la rediff sur la chaîne Tech & Co. Merci d'être là. Avec au sommaire ce soir, vous allez voir des sujets passionnants. On va parler d'aviation, d'aéronautique et notamment Airbus qui teste actuellement, écoutez bien, un avion autonome, voilà, avec des capteurs, avec évidemment beaucoup d'intelligence artificielle, l'avion, eh bien, vole tout seul. On en parle dans quelques instants avec mon invité. On s'intéressera aussi encore au CES, avec une start-up qui a fait sensation là-bas, qui s'appelle Aqua, et puis la Wine Tech. Eh bien voilà, c'est toute la technologie qui tourne autour du vin, avec deux start-up que nous découvrirons, qui permettent entre autres, un, de mieux servir le vin, et deux, de mieux le conserver. Voilà, un peu de plaisir ce soir dans Tech & Co, c'est quelques-uns des sujets qu'on évoquera ensemble. Merci d'être là. 2 heures de tech, c'est maintenant. Bienvenue sur BFM Business.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
L'actu de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
L'actualité qui est chaude, notamment pour Google, puisque on l'a appris il y a quelques minutes, Frédéric, la justice américaine attaque Google donc en justice pour abus de position dominante.
Oui, son monopole dans la publicité. Alors, c'est pas la première fois que Google est attaqué pour abus de position dominante dans la publicité, mais là, c'est quand même assez fort, puisque ils estiment que non seulement il y a cet abus de position dominante, mais Google en a profité aussi pour exclure ses rivaux. Oui, vous savez, Google, avec son moteur de recherche, a quand même un atout considérable lorsqu'il présente des produits, lorsqu'il va en parler justement aux annonceurs, leur disant, moi, comme j'ai la main sur le moteur de recherche, j'ai un peu la main sur tout ce qui peut se passer sur le site. Donc, plus vous me donnez, plus vous allez me donner de l'argent, plus je vais faire monter vos produits. Mais justement, voilà, par rapport aux autres plateformes, eh bien, la justice américaine estime que Google a cette position dominante et justement donne l'avantage à d'autres et un lien plus fort avec certains annonceurs. Donc là, aujourd'hui, alors, c'est comme le dit, depuis 2020, Google est accusé. Il y a plusieurs plaintes. On en a même une en Europe où il risque. Là, on parle dans dizaines de milliards de dollars.
Oui, parce que c'est des pourcentages sur le chiffre d'affaires, non?
Exactement. Ouais. Et puis, il faut voir quand même que Google est quand même à la première place du classement de la publicité en ligne. Hein. Ils sont devant Meta, devant Amazon. Alors, Google, évidemment, réfute toutes ces acquisitions. Dit justement, il y a Meta, il y a Amazon, regardez-les. Il y a Microsoft aussi avec sa régie publicitaire. On n'est pas du tout en position dominante. On est sur un marché compétitif. Il y a juste qu'on est meilleur grâce à notre outil. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce que pense William Barr, le département de la justice américaine qui donc a décidé de mener cette plainte. On va suivre ça de près parce que là, là on parle plus d'allemand de 5-10 millions d'euros ou de dollars. Hein. On parle,
ça peut être des centaines de millions, voire plus.
On parle même en dizaines de milliards de dollars.
Ouais. Waouh. L'année commence mal pour Google avec les vagues de licenciements, etc.
Les licenciements,
c'est chaud.
Les arrêts de certaines divisions, enfin voilà, ça va un peu mal.
Voilà, pas loin de Google, il y a Amazon, bien sûr, alors qui trinque aussi, on en parle souvent avec ces 18 000 licenciements qui ont été annoncés début janvier. On en sait un petit peu plus, notamment sur une filiale d'Amazon qui s'appelle Prime Air et qui va trinquer justement suite à ces économies.
Oui, alors c'est ce qui est intéressant avec ces licenciements, c'est qu'on se rend compte chez tous les acteurs de la tech quelles sont les priorités, quelles sont les pistes qu'ils sont en train soit d'abandonner, soit mettre en
suspens. Et on coupe le superflu.
Voilà, on coupe le superflu exactement. Donc c'est ce qu'Amazon est en train de faire avec donc la suppression de ses 18 000 postes. Et on s'est rendu compte que derrière, ils taillaient très fort dans les effectifs de Prime Air. Prime Air, c'est la division de livraison d'Amazon par drone. Et puis là, on y va. Équipe de conception, de maintenance, d'ingénierie du système, de tests en vol, d'opérations en vol. La moitié des employés d'un centre de test en Oregon ont été licenciés. Alors, tiens, ça nous rappelle étrangement Alexa et les enceintes Echo, où là aussi des équipes ont été licenciées. En tout cas, pour beaucoup, c'est pas une surprise parce que Prime Air s'était lancé en 2013. Ça a toujours du mal à se positionner. Ils sont en plus concurrencés par le même service Wing de Google qui, lui, déroule dans plusieurs villes. Alors, c'est toujours en test aussi, mais voilà, ils ont pris une certaine avance à la fois technologique et à la fois commerciale. Et puis, derrière, il y a eu de nombreux problèmes techniques. En 2021, il y a eu des crashs de drones. Donc, vous imaginez, pour la livraison, c'est quand même un peu compliqué. Sans compter s'il y a quelqu'un en dessous. Et puis, ils ont aussi pas mal licencié au cours des années. Et tout le monde s'est dit, de toute façon, les anciens employés disaient, c'est une activité qui est en train de mourir. Mm-hmm. Alors, on avait un peu d'espoir fin 2022, quand il y avait un nouveau prototype de drone qui était sorti, le MK30. On s'est dit, ça y est, c'est reparti. Et puis, il devait arriver en 2024. Et là, on sent que tout ça est en train d'être enterré. Donc, on va suivre ça. Mais voilà, la livraison par drone prend un peu de plomb dans l'aile. Je sais plus qui est. Je crois que c'est l'usine digitale qui titrait ça comme ça. C'était voilà. On jouait sur le petit jeu de mots.
Voilà. Je ne sais pas si ça fera rire Amazon. Ah. En tous les cas, nous, ça nous fait sourire. Toujours dans l'actualité d'Amazon, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, on voit tout de suite, comme tu le disais, on coupe le superflu et puis on se recentre aussi où on peut faire du business. Et on le sait, Amazon, voilà, va investir et investit dans la santé.
Oui, on sait que c'est quand même un gros marché, la santé pour tout le monde. Mmh. On l'a vu, on était tous les deux au CES, c'était l'une des tendances, le domaine de la e-santé, voilà, beaucoup de choses dans ce domaine. Donc là, Amazon a lancé un nouveau. Alors pour les abonnés, alors on est aux États-Unis pour l'instant, on est vraiment, on reste là-bas parce qu'on sait que chez nous, en termes de réglementation, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, pour les abonnés Prime, ils vont avoir un nouveau service qui va coûter $5 par mois et qui va permettre à Amazon de livrer de façon illimitée et sans frais supplémentaires des médicaments génériques. Alors il y en a 80. Alors pour les 80 affections les plus communes, hein, les rhumes, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et Amazon estime que ce sont plus de 150 millions d'Américains qui pourraient bénéficier de ces médicaments, de cette offre, donc fonctionnement illimité. Alors ça s'appelle RX Pass, et puis ça montre bien tout l'intérêt que porte Amazon aujourd'hui dans le domaine du soin. Ils avaient déjà racheté pas mal de sociétés dans ce domaine. Il y en a une dont le nom m'échappe tout d'un coup, One Medical, voilà, pour $4 milliards. C'est un réseau de soins privés, donc ils font à la fois du service et derrière il y a aussi du service de soins et à la fois cette partie de médicaments. Donc voilà, nouveau secteur pour Amazon, mais qui là, la priorité, elle est beaucoup plus que sur les drones.
Oui, ça c'est clair. Dans l'actualité aussi, on revient en France avec cette très bonne nouvelle, Frédéric, une immense levée de fonds dans la deep tech française. On va en parler dans un instant. Hein. 100 millions d'euros pour Pascal, la start-up d'informatique quantique qui a été cofondée par le prix Nobel de physique 2022, Alain Aspect. Alors, l'objectif, accélérer le développement international et proposer aussi des innovations technologiques majeures d'ici 2024. On écoute et on regarde le reportage de Jean-Baptiste Huette et on revient juste après.
À la différence d'un ordinateur classique qui aligne les calculs les uns après les autres, l'ordinateur quantique les effectue tous en même temps, en une fraction de seconde. La start-up Pascal travaille tout particulièrement sur la technologie à base d'atomes neutres. Un laser va dompter les particules et ainsi les maintenir plus longtemps dans leur état de superposition. Une superposition qui permet justement d'effectuer les calculs simultanément. L'entreprise a déjà séduit plusieurs industriels comme BMW qui étudie la déformation des matériaux ou le Crédit Agricole dans la gestion des risques. Avec cette levée de 100 millions, Pascal prévoit d'augmenter sa production d'ordinateurs quantiques, d'accélérer le développement de ces algorithmes. Les secteurs comme la chimie, l'automobile, l'aéronautique, la finance, dont les besoins en calcul sont immenses, salivent déjà en pensant aux gains techniques et financiers que pourrait leur apporter l'informatique quantique. Gestion de portefeuille, amélioration du design des avions, efficacité énergétique, une technologie qui donne déjà le tournis mystérieuse qui va encore nécessiter de très longues années de travail et donc des investissements importants pour rivaliser notamment face aux Américains.
Voilà, bonne nouvelle, hein, ces 100 millions de levée de fonds pour Pascal.
Oui, on devient bon dans tous les domaines. Hein, c'est à la fois pour faire les ordinateurs quantiques, à la fois pour faire des applications, à la fois pour la partie... Parce qu'on sait que le quantique, c'est compliqué. Hein, c'est de la chimie, de la physique, du numérique. Donc, il faut être bon dans tout ça et de l'informatique. Et on est bon dans chacune des parties. Voilà, si on divise le marché en quantique en quatre, eh bien, on arrive à pas trop mal se débrouiller. Et on a en plus des investisseurs qui...
C'est ça. Hein, avec et on met pas mal d'argent quand même où il faut.
Ah bah 100 millions...
C'est pas mal.
C'est pas mal, hein.
Voilà, Pascal, donc, une société qu'on reçoit de temps en temps dans Tech & Co et qui est passionnante d'ailleurs. Dans l'actualité aussi, c'est le chef de l'intelligence artificielle de Facebook Monde qui est français. Il s'agit de Yann Lequin, qui est évidemment quelqu'un de brillant dans ce domaine. Et Yann Lequin a déclaré, Frédéric, que ChatGPT, qui est un peu le service d'intelligence artificielle concurrent de Facebook, était particulièrement innovant.
Ouais, alors il dit ça n'a rien de révolutionnaire.
Voilà. Ah bon ?
Ouais, 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 c'est lui, il est plutôt assez circonspect. Il
d'accord.
Trouve que, ouais, ouais, il trouve que voilà, oui, pour le grand public, c'est pas mal, mais sinon, il trouve que en matière de technique sous-jacente, ChatGPT n'est pas particulièrement innovant. C'est bien ficelé, bien réalisé, mais alors d'un point de vue deep tech, puisque Yann Lequin est un spécialiste de deep tech, c'est même lui qui est à l'origine un peu de cette informatique qui va chercher elle-même. Mmh. Ces moteurs de machine learning. Et puis, là, il travaille lui aussi, bien entendu, sur ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence artificielle générative, dans l'informatique générative, donc avec, sur lequel fonctionne ChatGPT. Il dit, voilà, oui, ils englobent beaucoup de données, mais lui, il estime que c'est vraiment le coup de com' d'OpenAI, qui était une start-up qui avait besoin d'argent. La preuve, c'est que Microsoft est venu à rajouter des milliards. Il dit, nous, chez Meta, alors, pourquoi vous, Meta, Google, vous n'avez pas sorti vos modèles aussi, vous n'en avez pas profité. Il dit, bah, nous, déjà, on cherche le modèle économique autour de tout ça. Et puis, nous, nos technologies, on arrivera avec du business derrière, des cas d'usage, tout un ensemble de choses. On est beaucoup moins dans la com. Donc, un petit... Alors, est-ce qu'il a été un petit peu vexé de voir le succès, parce que on le dit, ça fait la une de journaux comme Le Parisien chez nous, donc vraiment grand public, et aux États-Unis.
Je pense que ça doit agacer Facebook.
C'était la même chose. Ça les agace un peu. Donc
comme Google,
maintenant,
d'ailleurs.
Et maintenant, c'est de dire attention, on va préparer. Ouais. On sait que chez Google, ça a quand même été l'alerte rouge, hein, donc de voir un peu arriver tout ça. Donc on se dit que voilà, il y a un petit peu de vexation de la part de Yann Lequin, même si sa parole est évidemment écoutée, Turing, il connaît tout ça, et puis peut-être qu'il n'a pas complètement tort quand il parle des développements de ChatGPT. Voilà, on est tous à regarder ça avec passion.
On verra ça
de près. On est très impressionnés, mais c'est vrai qu'on commence à voir les quelques travers de ChatGPT.
Ouais, qui impressionne quand même. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric Simotel, pour l'actu de ce jour. Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant. Et je vous rappelle qu'on est là chaque soir en direct, 20h, 22h, radio, télé, les podcasts et les répliques qui vous attendent juste après la diffusion de cette émission. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique, avec François Sorel.
Voilà, toute la tech, c'est chaque soir sur BFM Business, 20h, 22h, Tech & Co. Et la tech aujourd'hui, c'est l'espace, bien sûr, on en parle souvent, mais c'est aussi l'aéronautique, avec des pépites françaises, bien sûr, européennes, qui n'ont plus rien à démontrer. Et justement, on va évoquer ce soir un peu l'aviation, l'avion de demain, qui est en train de se dessiner du côté d'Airbus. Et on va en parler avec notre invitée Isabelle Lacasse, qui est là. Bonsoir, Isabelle.
Bonsoir.
Vous êtes la responsable du démonstrateur Dragonfly, Dragonfly, Airbus Up Next. Avec nous aussi ce soir, c'est Jean-Baptiste Huette. Salut Jean-Baptiste.
Bonsoir François, ça va.
Ravi de te recevoir sur le plateau de Tech & Co, journaliste à BFM Business, bien évidemment, et spécialiste aéronautique et passionné par tous ces sujets. On va rentrer dans les détails avec notre invité qui est sur ce plateau, mais auparavant, peut-être revenir un peu sur ce contexte. Ça y est, on est en train d'inventer un avion autonome. En quelque sorte.
Très intéressant ce qui s'est passé ces dernières semaines, parce qu'effectivement, plus qu'un avion autonome, j'allais même vous dire un avion intelligent. Expérience. Il y a quelques semaines, lors d'un vol entre Limoges et Lyon, vous avez un Airbus A350 000, qui est le gros porteur de la gamme, qui s'est déclaré en incapacité. Ça veut dire que les pilotes ne sont plus capables de piloter l'appareil. Et à ce moment-là, vous avez les algorithmes du programme du démonstrateur Dragonfly qui sont entrés en action. Et donc, ces algorithmes de Dragonfly ont élaboré en temps réel un nouveau plan de vol en fonction du trafic aérien, en fonction de la météo. Ils ont été, alors ça c'est la grande prouesse, ils ont été capables de générer une voie synthétique pour s'adresser aux compagnies aériennes et au trafic, pour leur dire attention, on a un problème, on a changé de route, on va devoir s'en aller. Et donc l'avion a terminé comme ça, donc c'est un déroutement automatique, hein, c'était du jamais vu. Et donc la 350 s'est ensuite posée seule, sans aucune intervention humaine, et il a même rejoint son parking de manière vraiment seule. Donc plus que l'avion autonome, là on rentre vraiment dans le monde d'après, vraiment dans l'avion intelligent capable de prendre des décisions.
Alors évidemment tout ça était un exercice, hein, bien sûr, hein, les pilotes allaient bien, c'était pour voir si tout fonctionnait. Isabelle Lacasse, aujourd'hui, on peut dire que un avion, alors ne peut pas se passer de pilote, on est d'accord, pour des raisons évidemment nombreuses, mais techniquement, technologiquement, aujourd'hui, on sait faire décoller, faire voler et atterrir un avion grâce à la tech, grâce à l'innovation.
Dans l'ambition du démonstrateur Dragonfly, effectivement, on est allé explorer le champ des possibles via la tech. Donc, notamment la partie traitement d'image, reconnaissance vocale qui a été mentionnée là, mais aussi plein d'algorithmes autour de la prise de décision, ce qu'on peut en faire au niveau de l'avion. Et notre ambition au niveau Dragonfly, c'est de développer tout un jeu d'assistance pour l'aide au pilotage. Et c'est ce que nous avons fait, en fait, fin de l'année dernière, en termes de démonstration en vol, en environnement réel, ça veut dire en espace aérien avec les vrais avions autour, où, en fait, on a effectivement opéré un déroutement d'un avion de manière automatique, avec l'atterrissage automatique associé. Et en parallèle, on a aussi évalué différents niveaux d'assistance par rapport à la partie taxi au sol pour aider l'équipage à gérer la partie taxi.
Parce qu'on est d'accord, Jean-Baptiste, que l'automatisation dans un avion, ça fait des années que ça existe. On est d'accord.
J'allais vous dire, c'est pas très original. Effectivement,
c'est pas très original. C'est vrai. Alors voilà. Évidemment, être pilote commandant de bord, c'est très important et évidemment, ils sont indispensables. Mais aujourd'hui, ils ont des aides technologiques depuis de nombreuses années qui leur permettent, en fait, de faire une grosse partie du job grâce à la technologie.
Quand vous êtes sur des très longs trajets, je parle sous votre contrôle, hein, mais quand on est sur des, notamment, vous connaissez bien la 330 aussi, qui est quand on est sur des très très longs trajets comme ça, le pilote souvent peuvent désactiver le pilote manuel et passage en automatique, et l'avion file tout seul, comme ça, évidemment, sous le contrôle. Mais ce qui est très intéressant avec Dragonfly, c'est que, on le sait, l'alpha et l'oméga pour les compagnies aériennes, c'est toujours plus de sécurité, toujours plus de sécurité. Il y a eu un tragique accident, alors c'était pas vous, c'était le concurrent américain, on est en 2005, c'est la compagnie grecque Helios. Vous avez un avion qui est tombé parce que les deux pilotes, il y a eu un problème, la cabine s'est dépressurisée et les pilotes sont tombés, se sont évanouis.
En quelques secondes,
se sont évanouis.
En fait,
et donc l'avion est tombé. Et là, effectivement, ce type de système vise à éviter ce genre de problème. Je crois que c'est une question de sécurité avant tout.
Isabelle, comment ça marche là dans ce cas précis? Admettons qu'il y ait un incident en cabine, en cabine de pilotage, sans intervention humaine à distance, l'intelligence artificielle de l'avion va détecter une anomalie. Et va reprendre la main, en fait, sur les pilotes, c'est ça? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un ordre, malgré tout, à distance d'une tour de contrôle? Comment ça marche?
Ce qu'on a pu imaginer par rapport à ce qu'on appelle un déroutement, voire un déroutement automatique dans ce cas particulier, ce qu'on a imaginé, en fait, c'est tout le type de possible pour avoir l'intelligence à bord de l'avion. Donc l'avion, de lui-même, est capable de détecter si les pilotes sont encore capable de contrôler l'avion et de l'amener au sol, donc au sens ne plus être évanoui.
Monitoré.
Ça veut dire aussi savoir détecter automatiquement quel est l'aéroport de déroutement le plus pertinent par rapport à la situation à gérer. Et ça veut dire aussi savoir identifier la trajectoire tout en évitant le relief, peut-être des cellules orageuses, des zones militaires, et faire l'atterrissage et voler cette trajectoire jusqu'à l'atterrissage automatique.
Mais toute cette information est dans l'avion? Ou est-ce qu'elle est déportée, car l'avion est connecté en quelque sorte?
Non, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un avion totalement autonome sur cette prise de décision et être capable de réfléchir à quelle est la meilleure opportunité. En fait, sur la partie déroutement, alors vous avez cité le cas de Helios, mais on peut avoir des cas où les passagers peuvent avoir il peut y avoir des urgences médicales qui nécessitent un déroutement. Il peut y avoir des pannes particulières qui nécessitent un déroutement. Dans tous les cas, le pilote doit gérer le choix de l'aéroport de déroutement, la trajectoire à voler, etc. Là, en fait, l'idée, c'est de lui proposer en un temps record une proposition de déroutement. Et à la limite, ça peut être exécuté automatiquement.
Avec la technique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'autonomie en quelque sorte. Ça peut être un conseil, et puis s'il n'y a pas de réponse, l'avion est pris en main en fait par l'intelligence artificielle en quelque sorte.
Voilà, donc on a développé effectivement une fonction qui permet de faire cette prise de décision et de faire le déroutement de manière totalement automatique.
Jean-Baptiste.
On se posait une question avec François en préparant l'émission tout à l'heure, on se demandait de manière benoîte, est-ce que ça peut augmenter un risque X ou Y de piratage, le fait de rajouter comme ça des fonctions qui sont très complexes, qui sont parfois gourmands dans le calcul informatique. Est-ce que ça peut... C'est des nouvelles portes, en fait, d'accès. Est-ce que ça, c'est possible? C'est un danger sur lequel vous travaillez?
Donc, sur tout ce qui est basé par rapport à la cybersécurité de manière générale, je dirais que là, dans le cadre du démonstrateur, déjà en particulier, ou des fonctions qu'on imagine, la décision est bord. Donc, on n'a pas besoin d'assistance au sol en termes de communication sol-bord. Donc, déjà, ce risque-là est anticipé dans notre design. Mais d'une manière plus générale, au niveau Airbus, en fait, il y a différents mécanismes qui ont pu être développés pour se prévenir toutes les cyberattaques. Au niveau des systèmes avions en particulier, il y a des solutions qui sont mises en place et c'est partie des hypothèses de design pour les ingénieurs. Donc voilà, c'est un classique en termes de design des systèmes et Dragonfly sort dans la même veine.
Alors vous avez testé tout cela sur un Airbus A350 qui est un peu le fleuron d'Airbus, voilà, un avion ultra moderne, très confortable que j'ai pu emprunter quand je suis parti aux États-Unis. Et c'est vrai que voilà, plus silencieux, mieux équipé, plus confortable, etc. Mais j'imagine que cet avion nécessite des capteurs que les autres avions n'ont pas, non ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est un avion spécial que vous avez créé pour l'occasion ou en fait tous les A350 sont compatibles avec cette technologie ?
Donc là, on a vraiment utilisé un A350 de d'essai en vol Airbus. Donc on va dire qu'il est, c'est une plateforme beaucoup plus flexible que les avions qui sont livrés en compagnie. Sur cet avion, on a effectivement, par rapport au traitement d'image, bardé l'avion d'un certain nombre de capteurs, oui, de caméras dans le visible. Enfin, vous avez tout à l'heure mis le nez de l'avion avec les trois caméras, mais il y en a plus que ça, en fait, en termes de capteurs autour pour faire le traitement d'image. On a installé des nouvelles interfaces, des IHM pour le cockpit. Pareil pour les opérations qu'on veut mener sur la partie taxi. On a installé différents équipements qu'on peut se permettre d'installer effectivement sur un A350 DC. Mais ça veut dire que dans le futur, si on imagine que cette solution est viable, qu'on veut aller plus loin, il suffira d'équiper les avions de la même manière.
Jean-Baptiste ?
Et justement, dans le futur, alors moi je me projette à, j'en sais rien, allez, on va dire 15 ans, 20, enfin, peut-être avant, en fait, on sait 10 ans, 15 ans, mais je pense aux autorités de régulation du secteur aérien qui sont toujours très 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 strictes, hein, notamment l'agence de sécurisation, enfin de l'autorité européenne ou la FAA américaine qui est aussi assez impitoyable. Est-ce que vous pensez que ce type de solutions sont à même d'être validées un jour par les autorités, ou alors est-ce que c'est le début d'un très 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 long chantier, d'un très long travail qui va s'étaler sur...
Oui, ou simplement une démonstration technologique en fait de votre savoir-faire.
Donc effectivement, dans le cadre du démonstrateur, déjà ça fait partie d'une étape dans la recherche côté Airbus avant que la fonction voie le jour, parce que comme vous dites, la partie développement et certification est quand même la dernière phase et prend du temps pour être acceptée parce que les niveaux de sécurité sont très élevés. Et pour Airbus, c'est quelque chose de très important. Donc nous, dans notre partie recherche, la partie démonstration ici à l'échelle 1 en faisant voler le concept d'assistance au pilotage, on pense que déjà il y a une réelle valeur en termes d'amélioration de la sécurité des vols, en termes d'efficacité des opérations aériennes, notamment sur la partie aéroportuaire, plateforme aéroportuaire. Et on pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée et on espère que derrière des décisions seront prises pour aller dans ce sens-là. Mais il faudra quelques années avant que ça puisse voir le jour.
Quelques années, c'est combien ? 3, 4, 5, 10 ans avant que vous ayez tous les feux verts ?
Encore une fois, le processus est assez long et nous, dans le cadre du démonstrateur, déjà, il faut terminer le démonstrateur en tant que tel et ça sera début de cette année. On va terminer une séquence encore d'essais vols pour valider justement cette valeur et se dire quelles sont les prochaines étapes, remettre ces recommandations pour qu'il y ait des décisions pour aller dans les prochaines étapes.
Pour aller plus loin.
Absolument.
Petite question concernant les pilotes, parce que j'ai cru lire de ci, de là, que les pilotes n'étaient pas franchement contents de voir arriver ce type de fonctionnalité. Alors, je tire le train encore plus loin. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de préparer un avion autonome, un avion bien pratique pour les compagnies aériennes, qui coûterait encore moins cher, parce que finalement, il n'y aurait plus de pilotes à bord et qui serait tout aussi sécurisé ?
Je pense qu'on est assez convaincu que les pilotes seront toujours là dans les cockpits dans le futur. L'idée de ce concept...
On parle beaucoup, excusez-moi, je vous coupe, mais on parle beaucoup de drones électriques sans pilote. Alors, on sait que, à chaque fois, tout ça est reculé parce que c'est pas au point, mais... C'est peut-être une réflexion qu'on peut avoir.
Donc sur la partie drone, ça ne fait pas partie du champ de ce démonstrateur, donc je ne serais pas à même de répondre à ces questions-là. Je pense que dans la partie démonstrateur, vraiment, on s'est attaché à des problématiques actuelles des opérations aériennes qu'on a souhaité traiter, donc sur des concepts des cockpits existants. Donc opéré par deux pilotes, et c'est vraiment notre hypothèse de design de ces fonctionnalités pour lesquelles il y a une vraie valeur ajoutée.
D'accord. Donc pas de stress pour les pilotes aujourd'hui, bien évidemment.
C'est plutôt des assistances, et je pense que dans les retours qu'il y a pu y avoir suite aux communications, il y a aussi des pilotes qui voient une vraie valeur ajoutée en termes d'assistance, notamment sur les phases de taxi, sur ces types de solutions.
Jean-Baptiste, quand on voit tout ça, on se dit que finalement c'est aussi une brique supplémentaire pour avoir encore plus de sécurité dans un, enfin, dans un moyen de transport qui est le plus sûr au monde. Et c'est incroyable, en fait, évidemment. Chaque fois qu'il y a un accident, c'est un drame, mais c'est rarissime. C'est de plus en plus rare. Et on se dit qu'à chaque fois, on peut mettre la barre encore plus haute, finalement, grâce à la technologie.
Je disais tout à l'heure, évidemment, c'est la sécurité dans l'aérien, c'est l'alpha et l'oméga. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une question de business. Regardez ce qui s'est passé avec Boeing et le 737.
Catastrophe.
Quand il y a des accidents du 737 MAX, ça n'a pas touché que Boeing.
Non.
Ça a touché l'intégralité de l'écosystème aéronautique. Donc, ce sont des questions qui sont prises, évidemment, qui sont absolument majeures. Et effectivement, là, ce type de briques, comme vous dites, François, qu'on ajoute les unes après les autres. Alors, il y en a peut-être, vous nous disiez, certaines qui ne sont jamais utilisées. Hein. Peut-être que Dragonfly, Airbus va décider un jour de dire... Bah non, finalement, non, on n'a pas les crédits, j'en doute, mais bon, mais on part peut-être sur autre chose. Voilà, en tout cas, c'est de la recherche et des idées. Et c'est aussi ce qui est très intéressant avec ce programme-là, c'est qu'on parle de Dragonfly, qui est comme la libellule,
oui.
Parce qu'elle a des yeux et qu'elle voit à 360 degrés. Et ça, c'est une des lubies, si j'ose dire, d'Airbus ces derniers temps, c'est le biomimétisme. C'est s'inspirer de la nature, des animaux. Il y a un autre programme, notamment, qui s'appelle Albatros, où on a des avions, où on a des projets d'avions qui pourraient plier les ailes un peu comme les oiseaux.
Enfin, redessiner, en fait, le design des avions.
Exactement, ou qui se suivent les uns après les autres, comme le sillage des oiseaux. Donc il y a ces réflexions-là aussi qui sont très intéressantes à voir, hein, comment le biomimétisme arrive et s'insère, en tout cas, dans l'aéronautique et chez Airbus, en tout cas.
Voilà. Merci beaucoup, Isabelle Lacaze, d'être passée par le plateau
de
Tech & Co. C'est
merci
passionnant, tout ça. Vous êtes responsable de ce démonstrateur Dragonfly de chez Airbus Up Next. Et merci, Jean-Baptiste, pour tes lumières. Et à très vite sur BFM Business. Vous restez avec nous bientôt 20h30. On revient dans un instant pour l'info éco, comme chaque soir. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique, avec François Sorel.
Voilà, et on va maintenant accueillir avec beaucoup de plaisir sur le plateau de Tech & Co, Georges Kern. Bonsoir, Georges.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG de Breitling.
Absolument.
Voilà, marque évidemment de montres de luxe mythique que l'on doit à un certain Léon. C'était en 1884.
84.
Voilà, qui dans son atelier, comme ça, dans son coin, développait des chronographes, enfin des compteurs à l'époque. C'était ça. Et puis après,
des montres de poche.
Voilà, des montres de poche incroyables. 1884. Voilà, petit à petit, Breitling a trouvé son rythme de croisière, ses lettres de noblesse aussi, avec des fournisseurs prestigieux en 36, donc la Royal Air Force. Parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de montres spécialisées pour les aviateurs, en quelque sorte.
Oui,
c'est
on
ça,
a hein beaucoup de montres professionnelles, ça fait partie de l'histoire de Breitling. Donc aujourd'hui, depuis 5 ans... Comme vous le savez, on a été repris par du capital privé, CVC, ouais, et depuis quelques mois aussi Partners Group, un fonds d'investissement suisse. Donc on a élargi notre offre. Aujourd'hui, on est plus généraliste, sachant qu'on a évidemment trois lignes très fortes dans l'aviation, mais on est plus une marque généraliste qu'avant.
Voilà, et de luxe aussi.
De luxe,
même,
évidemment.
Bien évidemment. Moyen. Combien coûte une montre Breitling ?
Alors, notre prix moyen est à peu près à 6 100 € aujourd'hui.
D'accord. Concurrent principal, Rolex ? Ou c'est plus compliqué que ça ?
Il y a dans cette gamme de prix, vous avez 3-4 marques
qui se concurrencent. Ce qui est intéressant, c'est quand on se plonge un peu dans cette histoire de Breitling, on se rend compte que la tech est présente depuis toutes ces années. Hein. La précision de vos chronos, c'est de la technologie, c'est quand même incroyable. L'industrialisation aussi de cette précision, parce que c'est ça qui est le plus compliqué peut-être, non ?
Alors Breitling était finalement l'inventeur du chronographe sur le poignet.
Oui.
Donc effectivement, c'est la famille Breitling, trois générations de famille Breitling qui ont développé le chronographe tel qu'on le connaît aujourd'hui sur le poignet. Et d'une certaine manière, c'était les Apple ou les Google.
Mais c'est ça.
Du siècle dernier. Et c'est ça qui est passionnant. Alors aujourd'hui, la technologie en tant que telle, traditionnelle, horlogère suisse, n'a pas vraiment évolué. C'est l'industrialisation qui s'est beaucoup développée, mais on reste très traditionnel. Par contre, on utilise aussi les moyens digitaux pour la communication, on va en parler tout à l'heure.
Avec les NFT.
Avec les NFT, etc., pour la traçabilité, etc., du produit.
J'avais juste encore une petite anecdote à raconter à tous ceux qui nous écoutent, qui ne la connaissent peut-être pas, c'est le fameux modèle Emergency. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais
ça existe.
Absolument. C'est un truc incroyable, une montre qui permet, quand on est en situation de détresse, eh bien, d'appuyer, je pense qu'il faut appuyer sur un bouton, et là, vous êtes...
Vous tirez une antenne.
Voilà, vous êtes détectable, voilà. Et ça a sauvé des vies, hein. Bien sûr, il y a cette histoire de deux pilotes britanniques qui s'étaient écrasés dans l'Antarctique avec leur hélicoptère, et qui avaient cette montre. Et ils ont été sauvés grâce à ça, parce que ça émet un bip, en quelque sorte, que les secours satellite entendent. Après, voilà. Incroyable. Donc, et ça date de quand? C'était il y a quelques années de ça.
Donc, oui, il y a plus de 25 ans. Incroyable. En réalité, on a sauvé, à notre connaissance, 18 personnes.
C'est fou.
Donc, et beaucoup de pilotes militaires utilisent toujours ce produit.
Non, mais c'est pour ça que je voulais faire cette petite parenthèse, parce technologie, finalement, elle est vraiment ancrée chez vous. Donc, évidemment, vous embrassez notre époque, hein, parce que même si ce sont des montres mythiques, vous goûtez à la technologie. Vous avez, il y a quelques années, lancé des montres connectées. J'ai pas l'impression que ça ait bien marché. Enfin, je sais pas si elles existent toujours. Vous aviez intégré du Bluetooth dans les montres, etc., etc. On va parler de NFT, etc. Mais quand on voit par exemple le succès d'un Apple, est-ce que ça vous donne envie de retenter l'expérience? Parce qu'on peut imaginer qu'en 2015, c'était des technologies un peu balbutiantes, le Bluetooth, etc. Est-ce que finalement une marque comme Breitling doit embrasser toutes ces technologies et connecter ses montres?
Je ne le crois pas. Je pense qu'on a un segment de la montre traditionnelle que le consommateur recherche. Je pense que les montres digitales et les montres analogues, d'une certaine manière, vont coexister pour des utilisations très différentes. Peut-être les montres digitales pour le sport, etc. Mais finalement, la montre traditionnelle, c'est un produit d'art. Vous n'achetez pas une montre aujourd'hui pour lire l'heure. Vous avez l'heure...
Oui, bien sûr. C'est avant tout un bijou. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Oui, c'est un produit d'art. C'est un métier d'art.
Mais quand vous voyez, excusez-moi, je vous coupe, mais quand vous voyez par exemple que on a des montres aujourd'hui qui sont bien plus que des montres, qui sont des objets de monitoring de santé, c'est un sujet qui prend énormément d'ampleur. Hein. On arrive à sauver des vies, tout comme vous le faisiez avec vos montres Emergency. Apple sauve des vies en détectant des anomalies cardiaques, etc. C'est pas une voie qui vous intéresse, ça?
Non. Alors déjà, on n'a pas, si vous voulez, les chercheurs, les milliards d'investissements que vous avez chez Apple ou chez Google. Donc l'industrie horlogère suisse n'est absolument pas organisée.
Ouais, c'est vraiment deux segments différents.
C'est deux segments complètement différents. Mais qui sont, à mon avis, vraiment complémentaires.
Oui, c'est ça.
D'ailleurs, vous avez beaucoup de consommateurs qui portent les deux produits, qui portent
un
produit analogue, etc.
Et puis sur l'autre bras, une montre connectée.
Mais nous, on essaie de créer des émotions. Je ne connais personne qui collectionne des montres digitales. Par contre, je connais beaucoup de gens qui collectionnent des montres analogues. Et vous avez toujours un souvenir lié à une montre analogue. C'est très différent d'un téléphone portable ou d'une montre digitale, qui malheureusement perd de son intérêt technique après quelques mois déjà.
Oui, c'est ça. C'est vrai que l'obsolescence de ces montres connectées est sans commune mesure par rapport aux vôtres. Les vôtres, si elles sont bien entretenues, sont quasi éternelles.
D'ailleurs, le marché secondaire est en telle croissance.
C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, vous vous intéressez à la tech, au Web3 et au NFT. Alors, racontez-nous ce que vous associez lorsque vous avez un client qui achète une montre Breitling, comment vous l'associez grâce au NFT?
Alors, dans cette industrie très traditionnelle, il y a quelques années, on avait un emballage, on avait une garantie en papier, on avait des livres d'instructions en papier, et finalement, beaucoup de clients les perdaient, des montres étaient volées. Et avec ce système de ce qu'on appelle la blockchain, on donne finalement une espèce de passeport digital au client. Donc vous avez sur votre iPhone ou sur votre ordinateur ce produit avec toute l'information. Donc par exemple, vous la donnez à un service, service après-vente, une réparation, etc. Et vous avez toute l'information. Et c'est très important d'avoir cette information pour la traçabilité et l'authenticité de la montre.
Il y a deux choses intéressantes. L'authenticité, c'est-à-dire que numériquement, on saura que cette montre, ce modèle est à moi. D'accord. C'est ça.
Et ce n'est pas une copie. C'est un vrai produit. Produit original de Breitling.
Et puis, deuxième cas, Georges, qui est très intéressant, c'est la traçabilité. Parce qu'évidemment, il y a plein de métaux dans votre montre. Et l'idée, c'est d'intégrer dans sa NFT la traçabilité de la montre, c'est ça ?
Je pense que ça, c'est vraiment l'étape, la prochaine étape, d'ailleurs, dans toutes les industries. Non seulement dans l'industrie horlogère, mais vous l'aurez dans l'industrie agroalimentaire. Parce que le consommateur doit avoir la transparence comment est produit cette montre ou d'où proviennent par exemple ces légumes, quel est ce qu'on appelle le footprint CO2, etc., etc. Donc nous, ce qu'on veut expliquer aux clients, c'est comment est-ce qu'on a produit cette montre, qui sont les fournisseurs, d'où proviennent les matières premières, comment est-ce qu'elles ont été extraites, etc., notamment dans un contexte de ce qu'on appelle sustainabilité du produit. Et les gens, et je pense que c'est un droit du consommateur d'avoir la totale transparence du process de production et évidemment de toutes les matières premières qu'on utilise.
Et puis, c'est toujours intéressant, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui achètent vos montres et qui sont fans de ce que vous faites, de lire l'histoire de la montre que j'ai achetée, finalement. Parce que je vais pouvoir connaître la traçabilité, etc., etc. Oui. C'est intéressant, aussi.
Non, absolument, mais je pense que vous l'aurez dans toutes les industries, dans l'industrie textile, etc., avec les microplastiques.
Ça commence, d'ailleurs, dans l'art.
Dans l'art. On s'en rend compte. Oui, dans l'art, évidemment, oui.
Et alors, le marché de l'occasion va bénéficier aussi de ce NFT, parce qu'en fait, quand je vais revendre ma montre, pour certifier que c'est une montre originale et que ce n'est pas une copie, eh bien, je vais aussi vendre mon NFT, en quelque sorte, sa certification numérique.
Absolument. Et ce marché de l'occasion, aujourd'hui, est bien plus important que le marché de la nouvelle montre. Et ça, les gens oublient. Encore une fois, les gens collectionnent les montres. Vous ne les jetez pas. Vous ne jetez pas une montre de votre père ou de votre...
Non, c'est clair.
Donc, les gens veulent avoir... Et d'ailleurs, nous, on certifie aussi avec le NFT des montres qui ont été achetées il y a quelques années.
Ah oui,
donc, d'accord. Vous pouvez faire... Vous pouvez créer une blockchain...
Avec une montre qui a quelques années d'existence. En
exactement.
Fait. Voilà, tout ça est passionnant. Merci beaucoup, Georges Kahn, d'être passé par le plateau de Tech & Co. Vous êtes le PDG donc de Breitling. Merci. Et vous restez avec nous. Dans un instant, allez, on va faire un petit détour encore une fois du côté du CES de Las Vegas avec Business France, puisque c'était nos partenaires là-bas, dans ce grand salon dédié à la tech qui s'est déroulé début janvier. Et on va découvrir une start-up qui s'appelle Aqua Robotics. Ce sont des robots qui vont dans les canalisations pour analyser en fait les fuites dans les canalisations d'eau potable. C'est passionnant ça aussi, on en parle dans un instant. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, le retour de Tech & Co sur BFM Business. Et j'accueille tout de suite sur ce plateau Didier Boulogne. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Directeur général délégué à l'export chez Business France. Et Jean-François Guidardoni est avec nous aussi. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir.
Directeur associé chez Aqua Robotics. Alors vous êtes avec nous pour remonter le temps. Nous étions ensemble à quelques dizaines de mètres côte à côte de ce CES à l'Eureka Park, à Las Vegas, où s'est déroulé ce grand salon dédié aux nouvelles technologies. Business France était notre partenaire, vous le savez. Didier, c'est intéressant la tension est retombée.
On fait les comptes.
Voilà, on fait les comptes et on tire un premier bilan de ce CES 2023, mine de rien.
C'était une belle édition. Alors, bon, on n'était pas sur les éditions, on va dire, pré-Covid, où on avait une frénésie, on avait 170 000 visiteurs. Là, on était plutôt sur une jauge à 115 000, mais c'était quand même une très belle édition, très
dynamique. Par rapport à 40 000 l'année dernière.
Par rapport à 40 000 en 2022.
Pleine vague Omicron, bien sûr, c'était compliqué.
Donc là, c'était vraiment une belle édition de reprise. C'était dynamique et on est très, très satisfaits. On avait une belle délégation, on avait 170 entreprises avec nous sur l'Eureka Park. On avait aussi 16 entreprises sur le hall dédié à l'automobile sur le Convention Center. Oui. Donc c'était vraiment très très
Stellantis
bien.
Stellantis qui a fait le déplacement.
Exactement. Au total, on était on représentait à peu près 17% de l'offre start-up, donc puisqu'il y avait un gros millier de start-up présentées. Donc 17%, c'est quand même belle proportion.
Oui, au niveau mondial.
Au niveau mondial, absolument. Donc c'était très très bien. On a eu le plaisir plaisir d'être distingué à double titre par le CTA. Le CTA, c'est l'organisme qui organise le CES de Las Vegas. Ils nous ont distingué en tant que pays. La France a été placée parmi les pays les plus performants en ce qui concerne la tech. Donc, c'était une reconnaissance que l'on estime méritée, mais qui était attendue.
On est légitime en gardant notre humilité légendaire.
Voilà. Et puis, on a eu 19 entreprises, dont Aqua, qui ont été récompensées. Et on sait toute l'importance de gagner des prix à Las Vegas pour des entreprises qui sont en early stage. Donc, et puis, on a eu aussi trois visites de délégations d'entreprises, deux coréennes et une japonaise, qui étaient à chaque fois menées par des ministres. On a eu le ministre de l'économie japonais qui est venu voir les entreprises de la French Tech. Donc ça, c'est un signal qui est assez fort sur ce que l'on représente, parce que quand même, ministre de l'économie, la troisième puissance économique mondiale, qui vient voir ce qu'on est capable de faire en matière de French Tech, c'est assez intéressant.
C'est assez intéressant. Est-ce que vous pensez que des startups ont pu lever quelques petits business là-bas au CES?
Oui. Alors il y a eu une volumétrie de rendez-vous qui a été assez importante. En gros, en moyenne, on est à peu près sur 120 rendez-vous par entreprise. Donc c'est quand même pas mal, dont un tiers, à peu près 40 entreprises en moyenne, qui sont du B2B, donc des clients potentiels. Donc au total, on estime qu'on a monté à peu près 8000 rendez-vous business. Donc c'est quand même pas mal, mais on va pousser les feux.
Ouais.
C'est bien là où on veut aller encore plus loin sur l'édition 2024, parce qu'on est déjà à pied d'œuvre sur.
C'est vrai. Vous préparez déjà l'édition 2024.
Ah, en fait, on était encore à Las Vegas, qu'on a débriefé nos partenaires régionaux pour savoir ce qui peut être amélioré, et puis ce sur quoi on doit pousser les feux. Donc, ça y est, tout est lancé déjà. Donc, ce sera un an de travail pour l'édition de 2024, mais ça y est.
D'accord. Avec quels sont les axes qu'on pourrait améliorer, que vous pourriez améliorer et qui pourraient changer en 2024, par exemple?
Changer. Alors, on est déjà. On avait pris un virage en matière de sélectivité. On était moins sur de l'entreprise très early stage avec, on va dire, de l'objet connecté un peu gadget. Donc, on était déjà sur quelque chose d'un peu plus construit. On prépare mieux les entreprises. On a fait cette année, on a fait 23 sessions de coaching. Donc, tout ça, on va pousser un peu les feux. Et puis, comme je vous le disais, la mise en relation commerciale. C'est le plus important. C'est ce qu'attendent les entreprises. Et là-dessus, on va forcer.
Alors, parmi les 19 sociétés françaises qui ont reçu, vous savez, ces Innovation Awards du CES, qui sont très courus, on va dire, il y a Aqua Robotics, Jean-François Guilherdoni, donc vous étiez au CES de Las Vegas, et oui, vous avez été l'une des stars, sincèrement, en restant très humble, l'une des stars de ce CES, parce que franchement, vous avez eu une des retombées médiatiques, parce que ça aussi, c'est très important.
Absolument. Hein,
avoir les médias étrangers qui s'intéressent à l'innovation française, ça fait plaisir. Et à quoi vous avez fait un carton plein? On va revenir sur ce succès, mais déjà, expliquez-nous ce que vous avez présenté au CES.
Alors, au CES, en fait, on a présenté la machine qu'on a maintenant en modèle ce qu'on appelle de pré-série, c'est-à-dire qu'on va commercialiser d'ici quelques mois. Et donc, on présentait cette nouvelle machine qui est... nouvelle machine, c'est la première, puisque donc nous, on est une start-up relativement jeune. On était venu il y a quelques mois, on avait déjà parlé.
Oui, j'étais venu en avant-première dans Tech & Co.
Tout à fait.
Dans cette émission.
Exactement. Et donc, cette machine qui s'appelle le Pathfinder, donc l'éclaireur, en fait, puisqu'il va découvrir des endroits qu'on n'a pas encore explorés à l'intérieur des canalisations d'eau potable. On le présentait, c'était lui qu'on mettait en avant. On avait une maquette de la machine qui était présente sur le salon. Et c'était un peu, on va dire, alors c'est un semi-lancement, puisqu'on n'est pas en mode de commercialisation, mais c'est déjà une machine avec laquelle on va déployer du pilote terrain. Donc, les contacts avec les services de l'eau et le contact avec le terrain et la réalité, c'était le bon moment pour le passer. Donc, le CES était le berceau parfait pour faire ce lancement.
L'idée, c'est que ce robot, évidemment, il n'est pas là que pour voir si les tuyaux à l'intérieur sont jolis. C'est pour détecter les... passion tuyaux.
Mais non, effectivement.
Mais il est là pour détecter les fuites.
Alors, il est là pour analyser l'état de la canalisation. Souvent, c'est vrai que, d'ailleurs, dans les médias, on a beaucoup été assimilés à la recherche de fuites. Et ce qu'on veut éviter, effectivement, c'est les casses et les fuites. Et surtout, pouvoir réparer, que les services de l'eau puissent renouveler ou réparer avant... les fuites se produisent.
Prévenir les fuites.
Tout à fait.
Parce que ça se voit, il y a peut-être des...
Exactement, on analyse
des
l'état.
Zones fragilisées.
Tout à fait, vous avez des pertes d'épaisseur, des micro-fissures, des zones de corrosion, des joints défaillants. Tout ça, on peut l'analyser avec de l'image, de l'ultrason, avec toute une série de capteurs embarqués sur la machine. Et nous, c'est notre objectif, en fait. C'est de pouvoir aider un service de l'eau à dire, voilà, cette année, c'est tel kilomètre ou c'est ces zones-là qu'on va renouveler et celles-là dans 2 ans, dans 3 ans, prioriser leurs investissements et réduire les coûts de maintenance et de casse en étant en prévention, si vous voulez.
Alors, Jean-François, comment ça marche? Donc, c'est une espèce de petit robot chenille, c'est ça?
Tout à fait, ouais, ouais.
Que vous insérez dans le tuyau, qui est relié à un fil, c'est
alors,
ça?
Non, c'est un robot autonome. C'est une des clés, en fait. Voilà.
Ça qui est bien.
C'est ça qui permet de couvrir de la distance.
Donc, il part.
Voilà. Il a sa mission embarquée.
D'accord.
Son logiciel qui va lui dire la distance à parcourir, les données à récupérer et la fréquence de récupération de ces données.
Il va scanner le tuyau.
Et la gestion du risque aussi. Important. Ah. C'est-à-dire si le tuyau perd du diamètre, trop de diamètre, s'il trouve une vanne qui n'était pas attendue, il va revenir en arrière, il va revenir à son point de départ. Ce qui est important, puisqu'on a quand même un environnement où on peut avoir beaucoup de surprises, voilà, on va dire.
D'accord.
Donc c'est un logiciel intelligent, très intelligent même, qu'on embarque et qui va lui permettre de réaliser sa mission. Donc l'informatique et l'électronique sont aussi importantes que la mécanique
que
du
la
robot.
Que la mécanique, voilà, évidemment, de propulsion de ce
voilà, tout à fait. Voilà, il y a du brevet sur la machine mécanique, mais il y a aussi des brevets en cours sur la partie informatique électronique.
Voilà, 1 million de kilomètres, c'est la longueur du réseau de distribution d'eau potable en France. 1 million de kilomètres. Hein. Oui. 32 milliards de mètres cubes d'eau perdus chaque année dans le monde, dans des réseaux de distribution.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'il y a une étude qui est sortie récemment,
oui,
de chercheurs renommés, qui a estimé qu'en fait, la perte réelle mondiale était à 120 milliards de mètres cubes.
Ah, d'accord.
Donc, vous voyez, on est encore dans des... Enfin, oui, ça montre aussi qu'on est sur un sujet naissant, où on commence vraiment...
Oui, on arrive même pas à chiffrer, en fait.
C'est imaginez
ça,
un peu.
C'est ça le truc, on arrive même pas à chiffrer les pertes d'eau... Et effectivement, ce robot, comme vous le disiez justement, n'est pas là pour détecter les fuites, mais pour prévenir les fuites en quelque sorte.
Voilà.
Et faire des économies à tous les, on va dire, les exploitants de ces canalisations, parce que ça coûte moins cher de prévenir que après de changer des bouts de canalisation comme ça.
C'est extrêmement onéreux de renouveler un réseau d'eau potable. Hein. Nous, sur les canalisations qu'on cible, qui sont ce qu'on appelle le réseau d'adduction, les grosses canalisations, on est sur des coûts de l'ordre de 100 à 800 000 euros du kilomètre.
Donc c'est énorme.
Donc voilà, l'investissement doit être fait avec efficacité, on va dire.
Vous avez testé tout ça en Corse, notamment. Hein, vous avez fait des tests en Corse parce que vous êtes corse, donc ça fait d'autant plus plaisir que de.
Voilà. Donc la société est basée donc sur Bastia et sur Aix-en-Provence.
Oui.
Et les premiers tests avaient été réalisés effectivement avec la régie des eaux de Bastia, le premier prototype sur une distance relativement courte, mais qui permettait de valider l'autonomie du robot, c'est-à-dire un robot qui part seul, qui réalise de la collecte de données, de l'image haute définition, qui repère son parcours aussi, parce que ça, c'est un élément important. Il n'y a pas de GPS dans une canalisation.
Ouais, c'est ça, hein, qui est top.
Ouais. Donc, voilà, il y a tout un système de fusion de données pour réaliser cette reconnaissance de parcours.
Voilà. Et à quoi, donc, il y a eu, Didier, une espèce de reconnaissance médiatique, hein.
Ah oui.
Vous avez eu plein d'articles dans plein de médias américains.
Voilà. Il y a eu 3 awards, en fait, ces fameux awards, dont Best of Innovation, c'est-à-dire, vous savez, c'est Highlander. À la fin, il ne peut en rester qu'un.
Et c'est vous.
Donc, dans les villes intelligentes, on a eu ce fameux Graal.
Et donc, d'un coup, coup de projecteur.
Oui, tout à fait. Ça a vraiment, je pense, enfin, nous, c'est la première fois qu'on participait, hein, mais on nous a effectivement dit, oui, vous allez voir. Et on a vu.
Accrochez-vous.
Voilà. Et on n'a pas fini, hein. On est encore.
Vous avez des prospects, enfin, est-ce que ça vous a emmené des clients potentiels?
Oui, ils arrivent encore. On n'a pas digéré le CES encore, hein. On a notre boîte de contact, tous les jours reçoit des contacts de. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une grosse ouverture dans le domaine de l'industrie, en fait, et des réseaux industriels.
Oui, c'est ça. Vous trouvez de nouveaux business, de nouveaux marchés,
oui,
en fait.
Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Enfin, pour nous, le CES, c'est voilà un carton plein, on va dire, et on est très heureux de l'avoir préparé, de s'être organisé, d'y être allé à 5, parce que voilà, c'était peut-être pas évident au début. On se disait bon, c'est un stand, pas un stand énorme. Et heureusement qu'on était 5. Ouais, c'est pour ça que j'ai peut-être encore ma voix aujourd'hui.
ça va. Didier, voilà, bel exemple de la puissance en fait que peut avoir une belle innovation au niveau mondial, en fait.
Ah oui, c'est l'exemple parfait. C'est la belle techno qui a été présentée au bon moment. Là, on était en pré-série, on en a parlé. C'était le moment, ça y est, là, ça va exploser maintenant.
Il y a encore du chemin,
oui,
c'est clair.
Vous imaginez quand les premiers robots commercialisés?
On envisage de commercialiser à partir de 2024.
2024.
Début 2024, voilà. Bon. Mais on va être sur le terrain dans l'année 2023 déjà. On a déjà des services de l'eau intéressés.
Bien sûr. Oui, vous faites des tests, je crois.
Voilà, ben, vous voyez un collègue sur l'image, là où effectivement...
Très bien. Bah, écoutez, bravo. Alors, start-up basée en partie en Corse, hein, puisque voilà, vous étiez, vous êtes aussi du côté d'Aix-en-Provence, mais il y a eu d'autres start-up corse qui ont fait leur petit coup d'éclat, Butterfly, notamment. Il y en a d'autres. Il faudrait trouver peut-être une, créer une délégation corse. Bah, tiens,
pourquoi pas.
Merci en tous les cas.
Une émission en Corse, il y a plein de choses.
C'est prévu.
On en avait parlé, hein, voilà.
C'est prévu. On va faire une émission en juin en Corse pour parler notamment des télécoms et d'avancer.
Voilà, moi, je vous attendrai plutôt à Aix parce que je passe quand même plus de temps à Aix. Maintenant, c'est clair que c'est là que ça se développe. Mais
vous savez quoi, on a prévu aussi de faire une émission à Aix.
Mais bon, comme ça.
Voilà. Bah, je ne vais pas tout vous raconter notre agenda, mais on a quelques délocalisations prévues. Merci à tous les deux. Merci Didier.
Merci.
Voilà.
Merci.
Donc, on va poursuivre et voir comment vont évoluer ces préparatifs pour le CES 2024. On aura l'occasion d'en reparler. Directeur général délégué à l'export chez Business France. Et donc Jean-François Guidardoni, directeur associé d'Aqua Robotics. Messieurs,
merci.
Et vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant, bientôt 21h. On repart avec l'actu tech de ce jour et Frédéric Simotel, bien évidemment. Mais pas que. On fera aussi un zoom sur la wine tech. Et oui, le vin et la tech font bon ménage. Vous allez voir, des moyens hyper innovants pour les conserver, ces vins, mais aussi pour les servir. Et puis, notre rendez-vous French Tech en toute fin de Tech & Co avec deux startups dédiées à la biotech qui veulent améliorer la recherche dans le domaine de la santé. Voilà, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec Frédéric. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Allez, on va s'accorder quelques minutes de plaisir et de technologie. Cela dit, c'est un peu comme ça, hein, durant ces deux heures, en tout cas, on essaie. Mais là, on va parler de wine tech. Et oui, quand le vin rime avec technologie, c'est toujours un sujet passionnant qui évolue, en plus, d'année en année. Et on en parle toujours avec beaucoup de plaisir à l'occasion d'un grand salon dédié au vin qui ouvrira ses portes dans deux semaines à peu près, hein, du 13 au 15 février. Laurent David, président de la WineTech est notre invité. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Alors, évidemment, vous êtes là pour nous présenter un petit peu ce salon, mais au-delà de ça, de voir comment on crée ces accointances entre le vin et la technologie, c'est intéressant. Et on va en parler avec nos deux invités qui sont là et qui apportent de la tech en fait dans le vin. Peut-être un mot sur ce salon, donc du 13 au 15 février à Paris.
Alors pendant trois jours, Paris va devenir la capitale mondiale du vin. C'est le plus grand salon mondial professionnel, hein, à destination, c'est du B2B. Ça s'appelle Vinexpo Wine Paris. C'est la fusion de deux grands salons qu'il y avait en France pour devenir le leader mondial. C'est tous les pavillons de la Porte de Versailles vont être complets. Et dans le hall 3, vous aurez 400 mètres carrés avec 40 startups de la wine tech qui montreront leurs innovations. On en a deux brillants représentants ce soir avec nous. Il faut venir nous voir, il faut venir voir comment on peut innover dans le vin. Il y a des choses extraordinaires qui se passent.
40 startups ?
40
de la WineTech, française ou internationale?
Non, ce sont que des entreprises françaises, des jeunes pousses qui sont nées il y a quelques années, qui innovent, qui font bouger le secteur du vin, qui proposent des solutions qui vont peut-être révolutionner le vin. On parlera beaucoup cette année de NFT, de blockchain. On est en train de finir un livre blanc sur comment le Web3 va impacter l'univers du vin. Et c'est fantastique ce qu'on va voir, ce qui va se produire. Il y a déjà plein de startups qui sont positionnées, qui créent des innovations.
Mmh. Raconter des histoires grâce au NFT via des bouteilles de vin, c'est top.
C'est parfait. C'est protéger ces produits, la traçabilité, l'authentification, le marketing que l'on peut créer autour de ça. Voilà, ça va impacter durablement l'univers du vin, on en est persuadé.
Et pas que des bouteilles très haut de gamme, hein, visiblement. Hein, les NFT pour
toutes les bouteilles peuvent être potentiellement NFTisées. Ouais, excusez-moi pour l'anglicisme, mais c'est la possibilité comme ça de savoir d'où elles viennent, connaître leur origine, pouvoir avoir un lien direct entre le producteur et le consommateur. Enfin voilà, cette techno est sans limite.
Et puis après, il y a tout ce qui est agritech aussi, qui est intimement lié hein, à la wine tech. Hein, et on en reçoit souvent dans Tech & Co, hein, ces startups qui sont là pour protéger les vignes, améliorer, évidemment, enfin, en installant des capteurs, etc.
Capteurs, des robots.
La vigne est très fragile, pour savoir à quel moment il faut faire les vendanges, comment éviter le gel ou les fortes chaleurs, enfin, etc., etc.
C'est de la précision.
C'est passionnant.
C'est de la précision. C'est de la décarbonation aussi.
Oui, c'est ça. C'est clair. Et donc, voilà, ces 40 startups, on en a deux sur le plateau, on va les découvrir. Et vous pourrez commenter, bien sûr, ces deux innovations avec beaucoup de plaisir. Hein. Nicolas Néjon est avec nous. Bonjour. Bonsoir, Nicolas.
Bonjour. Oui, bonsoir, pardon. Il est un peu tard pour bonjour.
Oui, j'espère que vous ne testez pas trop vos solutions et vous en buvez pas trop.
On fait attention, toujours avec modération.
Alors ça, c'est important, il faut le dire, à la télé, à la radio, toujours à consommer avec modération, bien sûr. Vous êtes le président de Aven. Alors, vous êtes, ça fait quelques années hein, qu'on vous côtoie et vous faites on va dire un outil qui est très intéressant, qui permet en fait d'oxygéner le vin directement quand on le sert. Mais on va en parler dans un instant. Vous allez nous expliquer à quoi ça sert et comment ça marche. Et puis Franck Rambeau est avec nous. Bonsoir, Franck.
Bonsoir.
Vous êtes le concepteur et fabricant de Techno Wine. Vous êtes venu avec votre machine.
Je suis venu avec une des machines que nous fabriquons sur Nice, voilà. Fabrication française.
Voilà, parce que vous êtes basé donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous, ce que vous mettez en place, en fait, c'est de reboucher une bouteille, si j'ai bien compris, après l'avoir débouchée pour servir un verre. Mais on sait que, bon, un vin, ça s'abîme. Hein, vous vous êtes dit, bah tiens, on va trouver un système, une machine bourré de technologie, qui va reboucher le vin, en fait reboucher la bouteille, pour conserver encore le vin, c'est ça ?
Absolument, pendant 21 jours, aussi bien les vins tranquilles que les champagnes, avec deux processus totalement différents.
Donc vous gardez les bulles du champagne ?
On garde les bulles du champagne
c'est
pendant
sûr.
21 jours, c'est garanti.
Mieux que la petite cuillère ou tous ces trucs-là, tous ces gadgets qu'on met, qui ne marchent pas d'ailleurs.
Des gadgets de grand-mère qui ne fonctionnent pas, mais nous avons la technologie et nos clients peuvent...
Oui, profitez de ça.
Profitez de ça.
Alors évidemment, j'imagine que ça s'adresse pas aux particuliers.
Non, c'est un appareil quand même réservé aux professionnels, aussi bien au domaine viticole que les restaurateurs,
c'est ça.
Les bars à vin, les cavistes.
Parce qu'il y a une explosion de la consommation du vin au verre, en quelque sorte.
Absolument. Le français, de plus en plus, boit moins, mais boit mieux. Et pour les restaurateurs, quand même, la partie alcool-vin fait partie du chiffre d'affaires.
Ah ben c'est gros chiffre d'affaires, j'imagine.
Il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de pertes sur des bouteilles de vin qui sont ouvertes et ne sont pas servies à temps. Et grâce à notre appareil, on peut conserver et offrir un verre de vin frais pendant 21 jours aux clients.
Alors Franck, je suis dans un restaurant, je demande un verre de vin, un seul, bien sûr. Donc le sommelier ouvre une bouteille, me sert mon verre de vin, voilà. Mais peut-être que dans la soirée, finalement, il y a d'autres personnes qui voudront d'autres vins, d'autres types de vins, et finalement, cette bouteille va rester là comme ça. Sans votre technologie, une bouteille ouverte se conserve combien de temps, si je remets le bouchon comme ça ?
Alors, on va dire une bouteille de vin, environ 3 à 5 jours. Une bouteille de champagne, 2 jours.
D'accord. Et déjà, pour remettre un bouchon de champagne, c'est pas facile, donc il y a des bouchons exprès,
etc. Il y a des bouchons exprès, mais le problème, c'est que le gaz part très très vite, et nous avons mis donc un système en place avec des brevets français où on remet la bouteille de champagne en pression et ça nous garde vraiment la bulle d'origine du champagne pendant 21 jours.
Alors, parce que j'imagine que c'est pas les mêmes procédés pour du vin et pour du champagne. C'est pour ça qu'il y a deux...
C'est pour ça qu'il y a deux pistolets, en fait.
Deux pistolets.
Le pistolet noir.
Ça fait peur un peu votre machine, là.
Oui,
dit, mais
oui.
À quoi ça sert, ce truc-là?
Ah, c'est un petit peu niçois. C'est... En fait, la première partie, donc, est pour les vins tranquilles, qui vont permettre de mettre la bouteille de vin sous vide. En fait, ce qui se passe, vous ouvrez la bouteille de vin pour la première fois. Une fois que le bouchon est enlevé, le vin s'oxyde, c'est normal, ça se passe comme ça.
Et parfois c'est bien si on le boit après.
Et parfois c'est bien si on le boit après, il
D'accord.
a le temps de s'aérer éventuellement avec le système.
On en parlera avec Nicolas. Qui lui nous accélère l'oxydation.
L'inverse.
On a décidé, une fois que la bouteille de vin, le premier verre de vin a été servi, de mettre en place un système de sous-vide. Donc on va enlever l'air qui reste dans la bouteille, plus d'air, plus d'oxydation, 21 jours de conservation.
21 jours de conservation.
Absolument.
Donc, vous prenez votre pistolet, là, vous le mettez dans la bouteille.
Avec un bouchon spécifique.
D'accord.
On fait le vide. Le capteur de pression qui est à l'intérieur arrive à la pression négative attendue. Il s'arrête automatiquement. Plus d'oxydation, plus de perte.
Et le vin ne bouge plus pendant 21 jours.
Le vin ne bouge plus pendant 21
jours. Minimum ou c'est... Voilà, après 21 jours, on commence à...
Je pense que si le restaurateur n'a pas vendu sa bouteille de vin au bout de 21 jours...
c'est pas bon signe.
C'est pas bon signe, il faudrait qu'il change de métier.
Oui, il faut qu'il la boive.
Voilà.
Mais bon, après, ça c'est un autre débat. Le champagne.
Alors le champagne, processus totalement inverse. Parce que si je tire au vide une bouteille de champagne, je vais en plus de l'air enlever la bulle. Donc là, pour la partie champagne, on a une fois de plus, des bouchons spécifiques à des bouteilles de champagne. On est relié à une bouteille de CO2 alimentaire et on va remettre la bouteille de champagne en pression sans changer le goût du champagne et sans regazifier le liquide. Et là, également, 21 jours de conservation sur la bouteille de champagne.
Ah, c'est-à-dire qu'en rajoutant du CO2, c'est pas pour autant que ça va contaminer le liquide, en quelque
pas
sorte.
Pas du tout. On va pousser la
Vous
bulle.
Vous allez comprimer le liquide.
Voilà.
Pour pas que les bulles s'échappent.
Absolument.
Waouh. Impressionnant. Et de la même manière, on peut garder une bouteille de champagne combien de temps avec votre
21 jours.
21 jours, que Absolument. Ce soit pour le vin tranquille, comme vous dites,
voilà.
ou pour le champagne.
Voilà, champagne effervescent, crémant, aussi bien des demi-bouteilles, des bouteilles, des magnums.
D'accord.
Facile d'entretien.
Alors ça s'appelle Techno Wine. Vous avez que ce seul produit ou vous travaillez sur d'autres choses ?
On a ce seul produit qui peut être, si vous voulez, on peut acheter le produit uniquement pour le vin,
oui.
uniquement pour le champagne, ou celui-ci qui fait
la totale.
Les deux, la totale.
Très bien. Et ça existe depuis combien de temps ?
On a déposé les brevets il y a à peu près 6 ans de ça.
D'accord.
Sur Nice, grâce à la CCI qui nous a filé un très, très bon coup de main. Et en contrepartie, on s'est engagé que de construire notre appareil uniquement en région niçoise.
Vous avez aussi un rafraîchisseur, non ?
On a un rafraîchisseur express de bouteille. Que je n'ai pas apporté sur le plateau parce qu'il est quand même assez conséquent.
Oui, et puis on n'a pas de bouteille en plus.
Et puis on n'a pas de bouteille.
Voilà.
Qui permet de rafraîchir donc toutes sortes de bouteilles en 3 à 5 minutes.
Et on arrive à faire baisser la température d'une bouteille de combien de degrés en 3 à 5 minutes ?
À peu près, on va dire, on baisse la température d'à peu près 2 degrés par minute.
Pas mal quand même.
Donc ça évite aux restaurateurs ou aux cavistes. Je ne sais pas si vous êtes allé chez votre caviste il y a quelque temps. Vous rentrez chez le caviste en lui disant « Monsieur, j'aimerais bien avoir une bouteille de tel champagne. Mmh. Est-elle disponible au frais ? Non, monsieur. »
Et bien voilà. Et
là, avec le rafraîchisseur Express Techno Wine,
en quelques minutes,
la bouteille est fraîche et prête à partir.
Merci beaucoup, Franck, pour ces explications. Nicolas, à nous.
Tout à fait.
Donc, président de Haven. Alors, c'est rigolo parce que vous faites l'inverse de Franck. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un processus normal d'un vin. On ouvre une bonne bouteille. Il faut attendre un petit peu, quelques minutes, voire plus, que le vin se... Comment on dit
Tout à fait, ça aère. En fait, tous les vins ont besoin d'aération. Certains ont besoin de 20 minutes d'aération, quand d'autres vins ont besoin de plusieurs heures, voire un jour entier d'aération. Aujourd'hui, quand on veut aérer le vin, les techniques qui existent, c'est on ouvre la bouteille à l'avance. Et finalement, d'un point de vue pratique, c'est quand même pas super quand on a des amis qui viennent de leur dire repasser dans 4 heures.
Et puis je vais ouvrir combien de bouteilles ? Une, deux, c'est ça aussi le problème.
Et l'autre solution qui existe, c'est la carafe. Mais en fait, la carafe, elle accélère le process naturel d'un facteur x4 à x5. Donc une heure de carafe, ça équivaut à peu près à 4 heures de temps de bouteille ouverte. Donc ça rend pas le processus instantané.
Et 4 heures d'oxygénation du vin, c'est trop, en fait, c'est ça ?
Tout dépend.
Dépend des vins.
Chaque vin, en fonction de son âge, de son cépage, de son millésime, a besoin d'une aération différente. Et c'est là où Haven a innové, en proposant un aérateur variable, réglé en équivalent temps-heure, qui se fixe sur le goulot de la bouteille. Et quand le vin va passer dans l'aérateur, on va injecter des bulles d'air, de l'air ambiant, y a pas de gaz étranger. Et ça, en faisant ça, on va aérer instantanément le vin. Donc par exemple, si on règle sur l'écran tactile, on ouvre une bouteille, on règle sur l'écran tactile 4 heures et on serre le vin qui arrive dans la bouteille, dans le verre a le même goût que si la bouteille était ouverte depuis 4 heures. Et seul le vin qui est servi est aéré. Donc ça, c'est l'aérateur. Et de l'autre côté, on a une application, parce que comme vous le disiez, on ne sait pas combien de temps il faut aérer un vin.
Bien sûr.
À partir de cette application, à partir d'une photo de l'étiquette, on reconnaît le vin et en fonction de année, cépage, origine géographique.
Vous allez me dire combien de minutes ?
Exactement.
Il va falloir que je le vieillisse.
Donc ensuite, vous mettez l'aérateur, vous servez et le vin est parfaitement aéré.
Ça fait combien de temps que vous existez ?
Alors la société existe depuis 6 ans, on commercialise depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on est dans une phase de très gros développement.
C'est ça. Vous avez été primé au CES.
Tout à fait.
Il y a quelques temps de cela.
Exactement. 2 années de suite.
Avec ce fameux Innovation Award dont on parlait.
Tout à fait. Et dont on parlait à l'instant. Et c'est fortement possible qu'on reparticipe au CES l'an prochain sur un nouveau produit.
Ah, d'accord. Si je vous pose la question de ce que c'est, vous n'allez pas me dire.
Dans l'univers de la dégustation du vin.
Ça, c'est pas très précis tout ça.
Non, mais aujourd'hui, il y a une grosse demande des amateurs de vin de cette génération, les 28-40, qui s'intéressent au vin et qui cherchent des produits simples d'accès pour démocratiser l'accès au vin. Et bah, Haven, on se fige en porte-étendard de cette génération.
c'est top. Parce que c'est vrai que ça fait partie des plaisirs hein, de la vie. Vous avez deux produits, hein, je crois. Un qui s'appelle Original, qui est un petit peu plus cher que l'essentiel. 3,99€ et 249€ pour avoir une durée d'aération de 12 heures, en fait. Exactement. Alors que celui qui est un petit peu plus cher, on peut monter jusqu'à 24 heures.
24 heures.
Voilà. C'est intéressant de voir ces deux startups, Laurent. Et on se rend compte aussi qu'elles ont une portée internationale. Parce que le vin aujourd'hui, alors évidemment, c'est un peu le fleuron de la France, du bon vivre, etc., de l'excellence à la française, mais ça peut intéresser les Américains, enfin tous les vins californiens, et j'en passe, c'est les meilleurs. Il y a des vins, de très bons vins partout maintenant.
Tout de suite, ces entreprises vont à l'export, elles vont sur les grands marchés asiatiques, américains, dans toute l'Europe, bien évidemment. Leurs produits sont universels. Le savoir-faire français, il est là. La créativité, l'intelligence, ces gens-là, tous les ingrédients sont réunis en France. On a des grandes universités de recherche, on a les terroirs, on a tous les terroirs du monde, on a tous les cépages du monde qui sont là, donc c'est un laboratoire fabuleux, et puis la French touch, voilà, cette créativité, cet esprit entrepreneur, ben, qui font que voilà, les ingrédients sont en place pour créer ces innovations, déposer ces brevets, continuer à innover, puis aller conquérir le monde.
Nicolas, un potentiel à l'international ?
À nous, déjà 70% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'international, et encore une fois, c'est très très grosse croissance en ce moment, donc on ne souhaite qu'une chose, c'est que ça continue.
Ça continue. Et vous aussi, Franck ?
Oui, nous aussi, du fait, on a choisi le mot Techno Wine pour avoir une portée internationale. On a nos plus grands clients, de toute façon, ce sont les pays où il y a du vin, ou une culture du vin.
Et bien sûr. Et il y en a de plus en plus, c'est ça la bonne nouvelle. Merci beaucoup à tous les trois. Laurent, on rappelle donc ce grand salon dédié au vin qui sera Porte de Versailles du 13 au 15 février prochain, avec 40 startups présentes, et vous y serez bien sûr. Et merci à Nicolas Néjon, donc président de Aven, et Franck Rambeau, concepteur et fabricant donc de Techno Wine. Merci à tous les trois. Et vous restez avec nous, 21h30 bientôt sur BFM Business. Tech & Co revient juste après l'info éco de Faiza Younsi. A tout de suite.
Tech & Co, plongé dans la French Tech.
Et nous y voilà, la French Tech avec deux belles boîtes dédiées à la biotechnologie. Alors je pense que c'est un peu ce terme qu'il faut employer pour Sparring Vision, mais aussi pour ImCheck Therapeutics. Stéphane Boissel, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG donc de Sparring Vision. Et Pierre Despenoux est avec nous aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc président d'ImCheck Thérapeutique, une boîte créée en 2015 à Marseille. Et vous êtes sur l'immunothérapie contre le cancer. Et vous avez des ambitions très très fortes là-dessus. Et vous allez nous expliquer comment vous révolutionnez en fait l'immunothérapie qui existe depuis quelques années maintenant, mm-hmm. Qui soigne certains cancers. Comment vous allez plus loin avec votre société. Mais peut-être commencer par Stéphane. Donc, vous êtes le patron de Sparring Vision. Vous, c'est la vision, hein. Vous vous focalisez sur la vision, et notamment, d'après ce que j'ai pu comprendre, sur les maladies de la rétine héréditaire, c'est ça ?
C'est
pour,
ça.
Pour essayer de les soigner, ces maladies ?
Alors, nous développons des produits dits de médecine génomique, comme la thérapie génique, qui s'adresse effectivement à des pathologies héréditaires dégénératives de la rétine. Et l'idée, avec notre portefeuille de produits, c'est pour certains de stopper la progression de la pathologie, pour d'autres de restaurer la fonction chez des patients dont la fonction a été altérée par l'évolution de la maladie.
Ça représente combien de personnes malades en France, par exemple ?
Alors, il y a
ces maladies de la rétine héréditaires. On parle beaucoup de DLNA, c'est un peu ça ? Ou alors, c'est autre chose ?
Il y a deux grandes catégories de maladies dégénératives de la rétine. Il y a effectivement la DMLA, qui est non héréditaire, qui est plutôt acquise, et qui concerne une population plutôt âgée, et qui se déclenche liée à...
Mais qui est une maladie de vieillesse, en quelque sorte, c'est ça ?
Oui, c'est lié à l'environnement, à l'âge, effectivement. Et les maladies héréditaires touchent des personnes un peu moins âgées, plutôt en début de vie.
De jeunes seniors, on va dire.
de jeunes seniors. Et là, on est sur des populations un peu moins prévalentes, puisque la DMLA, c'est à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, 8% de la population française. C'est surtout des gens de plus de 50 ans.
C'est beaucoup. Hein.
Alors que les maladies héréditaires de la rétine, on parle à peu près 40 000 personnes en France. Donc c'est beaucoup moins prévalent. Mais autant il y a quelques traitements dans la DMLA, autant dans les maladies héréditaires, il n'y a rien.
Et alors là, comment vous arrivez-vous à combattre ces maladies, soit en ralentissant la progression, soit même en améliorant la situation?
Ben on a tout un panel de produits avec ce qu'on appelle des biologies différentes. Et ces biologies, on les insère dans ce qu'on appelle un vecteur viral, donc ce qu'on appelle une thérapie génique. Mmh. Et on injecte ces produits directement dans l'œil, selon différentes modalités. Et ensuite, la biologie va faire son effet par des mécanismes extrêmement compliqués qui seraient assez fastidieux de développer ce soir.
Oui, c'est clair. Alors, vous avez eu une levée de fonds de 75 millions d'euros en 2022. Et vous faites partie du classement FT 120, d'ailleurs comme ImCheck Therapeutics, hein, on va en parler dans un instant. Comment vous utilisez la technologie dans votre domaine?
On l'utilise à deux niveaux. D'abord, la biologie, la science de la biologie, c'est de la technologie en soi, et ça nécessite énormément d'outils de développement. Mm-hmm. Et une des spécificités de la médecine génomique, dont la thérapie génique fait partie, c'est qu'en plus du développement d'un médicament, il y a le développement d'un procédé industriel assez complexe. Donc on a une dimension à la fois scientifique, recherche médicale, et une dimension industrielle, qui rend ce type de développement peut-être un peu plus compliqué que la moyenne, mais absolument fascinant, et qui représente un potentiel et un champ d'avenir extrêmement prometteur, dans pas uniquement dans la vision d'ailleurs, dans un tas de domaines médicaux.
Alors, c'est vrai, bien évidemment. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous faites des phases d'essai. J'ai cru comprendre que vous alliez lancer une phase d'essai aux États-Unis, je crois, que ça s'appelle Prodigy.
C'est ça. Donc Prodigy est notre premier essai clinique pour notre molécule la plus avancée.
Oui.
Cet essai devrait commencer incessamment. D'abord aux États-Unis, on est en train d'obtenir les autorisations également en France, puisqu'on voudrait conduire ce premier essai clinique sur les deux continents.
Voilà, c'est pour combattre cet essai, et là pour combattre en fait la rétinite pigmentaire qui est causée par la mutation d'un gène, je crois.
Alors,
c'est ça,
en l'occurrence de 80 gènes et 250 mutations, donc c'est ce qui est encore un peu plus complexe. Et l'avantage des approches que nous développons, et nous sommes les seuls à les développer dans le monde, c'est que ce sont des approches qui sont indépendantes des mutations qui causent la maladie. Donc au lieu d'aller chercher à traiter les patients mutation par mutation ou gène par gène, la théorie de cette biologie, c'est de pouvoir les traiter indépendamment de ce qui a causé leur maladie.
On parle donc de thérapie génique pour la rétine, mais vous le disiez tout à l'heure, les thérapies géniques ont un avenir radieux, qui vont sans doute bouleverser la médecine dans quelques années. J'imagine que vous vous intéressez aux autres travaux de thérapie génique. Quels sont ceux qui vous impressionnent le plus, à part celui que vous traitez, donc ceux de la rétine?
Alors, Sparing Vision ne fait que de l'oculaire, hein, mais les premiers produits... Alors, il se trouve que le premier produit de thérapie génique approuvé aux États-Unis il y a 5 ans, était dans l'oculaire. Mais depuis, il y a eu d'autres produits qui ont été approuvés, notamment dans l'hémophilie de type B, assez récemment aux États-Unis. Il y a eu des produits également dans la dégénérescence musculaire. Donc, c'est vraiment... Une révolution qui est en marche, qui cible plusieurs organes. Ça a commencé par l'œil, ensuite il y a le foie, il y a le muscle, et avec le développement d'autres types de médecine génomique, par exemple les ciseaux ADN, on commence à envisager également à traiter par exemple des maladies cardiaques. Donc c'est un potentiel assez important. Mais derrière, il n'y a pas qu'une seule technologie. C'est vraiment un corpus de technologies qu'on regroupe sous le terme de médecine génomique.
C'est ça. Et donc, vous êtes spécialisé dans la rétine, en quelque sorte. Quel est le calendrier, la chronologie que vous visez pour avoir des premiers traitements avec votre innovation?
Alors, c'est toujours un peu hasardeux.
Oui, c'est toujours hasardeux.
Quand on commence juste à traiter les premiers patients.
Surtout quand on est dans le domaine de la médecine avec énormément de réglementations et de parcours, enfin, d'obstacles à franchir.
Donc, je vais vous donner le scénario le plus favorable.
Le plus favorable, bien sûr.
Là, avec notre levée de fonds récente, on va financer les deux premières preuves du concept en clinique, donc chez l'homme, avec nos deux premiers produits les plus avancés, et on devrait avoir ces résultats d'ici le début de 2025, et si tout va bien, notre premier produit dans notre business plan actuel pourrait être enregistré autour de 2028-2029.
Oui. On se rend compte de la latence qu'il faut pour valider tout ça, voilà une réglementation qui est nécessaire aussi, hein. Certains la trouvent longue, mais elle est nécessaire sans doute.
On pourrait sans doute aller un peu plus vite. Mais sur des technologies aussi nouvelles, la sécurité des patients passe avant tout, et donc je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup. Peut-être que dans 10 ans ou 15 ans,
on pourra aller plus vite.
On pourra aller plus vite, mais pour l'instant, je pense que c'est un chemin nécessaire.
Oui. On se rend compte de l'accélération de l'ARN, notamment suite au Covid, où on s'est rendu compte qu'on avait, enfin, il y avait une nécessité d'avancer beaucoup plus.
Oui, alors là, il y a eu un facteur
pandémique important.
Pandémique. Voilà. Et chance pour cette technologie et chance pour l'humanité d'ailleurs.
Oui, c'est clair. Pierre, c'est à nous. Pierre Despenoux, donc merci d'être avec nous pour nous parler d'ImCheck Therapeutics. Alors là, on est sur l'immunothérapie avec évidemment des promesses toujours très importantes concernant le cancer, puisque c'est la maladie que vous essayez de combattre avec votre innovation.
Les maladies.
Les maladies, bien sûr.
On va démarrer peut-être par le contexte. Donc, Le cancer se présente essentiellement sous deux formes, soit dites d'ordre hématologique, dans des cancers du sang ou de la lymphe, hein, donc les lymphomes, leucémies, etc., ou des cancers d'origine dite solide, cancer des organes, donc cancer du sein, cancer de la
prostate, avec
des tumeurs, plus ou moins métastatiques, donc qui colonisent ensuite l'organisme
plus ou moins vite.
Plus ou moins vite, au fur et à mesure de la progression de la maladie. Premier point. Deuxième point, les thérapies historiquement ont démarré par la chirurgie, puis la radiothérapie, puis la chimiothérapie. Effectivement, comme vous le disiez en introduction, depuis plus d'une quinzaine d'années, on est passé dans l'ère de l'immunothérapie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée, c'est d'utiliser, de mobiliser, d'éduquer le système immunitaire pour faire ce qu'il est censé faire normalement et avec lors de développement de la maladie, il peut être confronté à quelques dysfonctionnements et en fait l'idée est de le remettre dans le droit chemin ou en tout cas de le mobiliser pour combattre.
C'est ça, c'est-à-dire en gros on a une armée de petits soldats qui sont là pour combattre toutes les agressions qu'on subit et là vous montrez la lumière en quelque sorte à ces soldats. Enfin, je schématise au maximum, mais pour qu'ils aillent combattre le bon ennemi, en tout cas l'ennemi visé, c'est-à-dire la tumeur.
Et alors pour faire encore plus complexe, parce que le système immunitaire, c'est aussi un environnement ou une machinerie qui quand même est le résultat de plusieurs centaines de millions d'années d'évolution, et un système très intelligent. Les tumeurs arrivent, là je schématise aussi, à se rendre quasi invisibles du système immunitaire. Et donc elles arrivent à dialoguer avec le système immunitaire
pour dire
tout va bien,
ouais, tout va bien,
poursuis ton chemin, va voir quelqu'un d'autre.
Comme etc. une cape d'invisibilité.
Exactement. Donc l'idée est de rétablir de bloquer ces signaux, ces interférences qui font que le système immunitaire ne fait pas son travail. Mm-hmm. Et voilà, donc il y a plusieurs modalités. Nous utilisons celle des anticorps monoclonaux. Qui sont donc injectés chez le patient en monothérapie, mais également en combinaison avec des traitements existants ou expérimentaux.
Donc chimio, etc.
Enfin, alors des traitements effectivement des traitements traditionnels, enfin conventionnels, disons comme ça, mais également d'autres traitements d'immunothérapie. Et donc ImCheck a lancé sa première étude qui s'appelle Eviction en mars 2020. Et maintenant, avec quasiment 3 ans de recul, on peut affirmer, parce que nous l'avons démontré chez un peu moins d'une centaine de patients, d'abord la safety, donc la non-toxicité du produit. Nous sommes en présence d'un anticorps activateur du système immunitaire. Et donc il est possiblement
dangereux
dangereux beaucoup de choses qu'on ne souhaite pas.
Donc vous avez déjà démontré
inoffensif. Il permet, enfin on voit chez les patients quand même des réactions fièvre, frissons, des genres de choses qui nous permettent de comprendre qu'il se passe quelque chose. Donc, il est de dire qu'il est inoffensif est approprié, mais il n'est pas toxique.
D'accord.
C'est effectivement une première chose. Et puis, démarre les phases d'efficacité où on doit aller démontrer qu'effectivement le traitement réduit la masse tumorale, la progression des tumeurs.
Voilà. Si vous arrivez,
dans notre domaine, c'est extrêmement simple. Hein. Soit vous arrivez à démontrer que vous avez une supériorité clinique par rapport à l'existant, soit
merci beaucoup.
Game over.
Voilà, c'est ça.
Donc, ce qui nous permet d'être extrêmement encouragé et confiant dans l'avenir, c'est que pendant la phase de safety, de non-toxicité, on a déjà observé des signes d'efficacité.
Donc de réduction de tumeur.
On a une patiente, à titre d'exemple, on a une patiente atteinte d'un mélanome, un cancer de la peau, qui a été enlevé par chirurgie, qui avait métastasé.
Oui.
Et cette patiente avait subi des premiers traitements d'immunothérapie. Elle était devenue résistante, donc échappée, n'avait plus de recours.
C'est ça.
Elle a été traitée avec notre anticorps, qui s'appelle ICT01, en combinaison avec un anti-PD1, qui est une thérapie, une immunothérapie désormais conventionnelle. Et en l'espace de 27 semaines, ces métastases cérébrales ont disparu, ainsi que ses métastases hépatiques.
Incroyable.
Donc il se passe quelque chose.
Oui, bien sûr.
Et alors, un patient reste anecdotique. On est complètement humble face à ce qu'on a réussi à faire, etc.
Voilà, après, il faut passer à l'échelle. C'est toujours très,
signal extrêmement,
très optimiste. Rappelons que vous avez levé près de 160 millions d'euros auprès d'investisseurs européens et américains de premier plan à ce jour. Et voilà, donc on va suivre de près toutes vos évolutions. Merci beaucoup Pierre Despneux, donc président d'IMCHEC Therapeutics, et Stéphane Boissel, PDG de Sparring Vision. Merci.
Merci
à tous les deux. On va poursuivre et terminer ce Tech & Co avec notre rendez-vous Euronext Tech Leaders, comme chaque mardi soir avec Étienne Brack et notre invité qui nous rejoint. À tout de suite.
Tech Leaders, le focus.
Étienne Brack est avec nous. Bonsoir Étienne.
Bonsoir François.
Alors vous le savez, Euronext Tech Leader, c'est un indice boursier. Chaque mardi, Étienne est là pour nous faire un petit point. Alors après un début d'année tonitruant, ça se stabilise.
Oui, ça se stabilise. Ce soir, on a un indice qui est stable. Et si on regarde par rapport à mardi dernier, on a un indice qui est également stable. 2471 points ce soir à la clôture. Plus 11% depuis le début de l'année. Si vous regardez dans le détail, vous avez moins d'un quart des valeurs qui sont dans le rouge depuis le 1er janvier. Alors qu'une dizaine gagne plus de 20%. On est vraiment sur un début d'année historique. Et là, à très court terme, on a des marchés qui attendent les publications annuelles.
Ah, et justement, puisqu'on parle de bonnes nouvelles, c'est Just Eat que vous utilisez peut-être de temps en temps. Parce que De temps en temps, je vous vois dîner à la rédaction. C'est Just Eat qui prévoit une amélioration de sa rentabilité, Étienne.
Oui, bah, Just Eat, c'est le numéro 1 de la livraison de repas en Europe. C'est coté du côté d'Amsterdam, ça vaut environ 5 milliards en bourse. Et on a un groupe qui a publié ses résultats annuels avec des effets de base compliqués. Parce que souvenez-vous, il y a encore un an, on avait des confinements, il y avait le Covid. Forcément, le Covid, les confinements, ça a dopé le secteur de la livraison. Et là, maintenant, avec l'inflation, on a des ménages qui font un peu plus attention à leurs dépenses. Donc l'année dernière, vous avez des commandes qui ont chuté de 9% au quatrième trimestre. C'est même des baisses de 12% en termes de commandes. Et puis surtout, avec la fin de l'argent gratuit, vous avez moins de levée de fonds. Donc vous avez un groupe qui n'est plus dans une logique de croissance à tout prix, qui n'est plus dans une logique de vouloir croître, mais surtout dans une logique de rentabilité. Donc après une petite perte opérationnelle en 2022, 2023 devrait être en forte croissance. Et on a un titre qui a repris 13% depuis le 1er janvier.
Merci Étienne pour cette analyse. Et dans cet indice Tech Leaders, il y a donc aussi Tomra, focus donc sur cette société intéressante avec son directeur général français, Frédéric Durand. Bonsoir, bonsoir Frédéric et merci d'être venu depuis Salon de Prévence sur ce plateau. Alors, on va découvrir Tomra, Étienne, qui est une société norvégienne. Vous concevez, Frédéric, des machines et des capteurs afin de mieux récupérer et de recycler les déchets, c'est ça ?
Tout à fait. Tomra, c'est, nous avons fêté nos 50 ans l'année dernière. Créée en 1972. À la base, la création, c'était pour récupérer des produits de consigne, bouteilles de consigne. Et puis, on est rentré en bourse en 1986. Et puis, après, par acquisition externe, la volonté, ça a été d'aller chercher des produits vrac. Donc, le plus communément appelé en France, la poubelle jaune. Là où vous avez vos emballages ménagers, la bouteille, les papiers, les cartons, les cartonnettes. Et donc, ces capteurs qui ont été développés, qui viennent éclairer avec du proche infrarouge, souffler les bouteilles, les séparer, les papiers, ben ça permet d'aller chercher les produits.
Alors, Étienne a une question, a plein de questions à vous poser, mais auparavant, moi j'en avais une sur la comment ça marche en fait. Ces capteurs infrarouges et ces souffleries, en fait, vous récupérez donc d'immenses volumes de voilà de déchets.
Oui, fait, tout à fait.
Ils sont recyclables. Et comment ça passe en fait? Quel est le parcours de ces déchets?
D'accord. Donc, quand vous arrivez dans un centre de tri, les déchets sont disposés sur le sol, ils sont chargés dans des convoyeurs mécaniques basiques, et là, par des pré-traitements mécaniques, ils sont triés d'abord par granulométrie. On va trier les bouteilles d'un côté, les papiers de l'autre. Et ensuite, quand ça va arriver sur des bandes qui vont très vite, on est entre 3 et 5 mètres par seconde, ça va permettre d'unitariser les produits. Et de là, ces produits vont passer sous le scanner, où le scanner, on vient éclairer avec des lumières proche infrarouge pour récupérer un signal lumineux qui est un petit peu à l'image de l'album des Pink Floyd, dans le fameux triangle avec le faisceau lumineux qui éclaire, éclate en longueur d'onde. On récupère un signal électrique et derrière, on va venir piloter des électrovannes. Donc, il y a une électrovanne tous les 2 cm à peu près. Et on va piloter 1, 2, 3 électrovannes pour venir shooter les produits à séparer. Donc, c'est de la détection sans contact et du tri sans contact.
Avec des taux d'erreur qui sont élevés ou pas, hein ?
Des taux d'erreur de 10%, on va dire.
Oui, mais c'est formidable. Ah,
mais c'est formidable.
Gagner un temps fou, enfin, voilà.
Tout à fait.
C'est dingue.
Et comment l'intelligence artificielle et comment aujourd'hui la technologie, permet aujourd'hui de faire ce tri et surtout d'apprendre au lecteur de détecter, ça il faut le prendre, ça il faut pas le prendre.
Alors, depuis une vingtaine d'années, on était sur des capteurs matière, proche infrarouge et couleur. Aujourd'hui, on vient de terminer nos pilotes projets sur l'intelligence artificielle et nous, qu'on appelle le GAIN, c'est notre nouveau module qui pourra être implémenté sur des machines qui ont été installées depuis 2012. Et c'est une caméra, donc c'est du deep learning. On vient apprendre certains modèles à la machine qui, elle, de par son raisonnement deep learning, va pouvoir, c'est pour séparer la bouteille d'eau minérale bleue d'une chaussure polyester, parce qu'une bouteille d'eau minérale, c'est du polyester.
Eh oui.
La chaussure, c'est du polyester, si c'est bleu. Donc, on a besoin d'une caméra, on a besoin d'une reconnaissance de forme. Et c'est l'intelligence artificielle.
Et donc, elle va apprendre, en fait, avec des millions de chaussures. Et
tout
dès qu'elle va en voir une, elle va se dire, OK.
Chaussures, textiles.
Incroyable.
Tout produit dont la reconnaissance matière ne suffirait pas.
Et l'objectif, c'est de vous attaquer à des métaux lourds maintenant aussi.
Des métaux. Puisque ce type de technologie, on a commencé dans le plastique, on vient de terminer un gros projet sur le tri du bois. Donc l'UMDF, un produit qui est un bois aggloméré avec vapeur d'eau. Et on est capable, grâce à l'intelligence artificielle, et uniquement grâce à l'intelligence artificielle, de trier des morceaux entre 10 et 30 mm. C'est du 1 cm à 3 cm. Très petit. Ah, tout à fait.
De visiter vos usines, ça va être impressionnant.
Alors Thomas, on l'a dit, c'est une boîte qui est en Norvège. Hein, ça vaut environ 5 milliards à la bourse d'Oslo. Et vous avez aussi 50% de votre chiffre d'affaires. C'est la vente et location de consignes automatiques de collecte d'emballage. Donc c'est les machines qu'on retrouve sur les supermarchés où on donne une bouteille et puis après on récupère un bon d'achat, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et aujourd'hui, est-ce que dans les temps d'inflation, vous avez des supermarchés qui se disent, tiens, si on installe une machine, c'est le moyen pour nous d'attirer des clients parce qu'on échange la bouteille, on récupère
on gagne
un bon d'achat.
Un pouvoir d'achat,
Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui a été lancé par Citeo il y a déjà, 6-7 ans, puisqu'on a à peu près 300-350 unités déjà installées. Alors ça, ça permet de donner un pouvoir d'achat, mais il se pourrait que dans les mois à venir, la consigne revienne en France. Et là, à ce moment-là, on installe des milliers d'unités pour aller récupérer les bouteilles.
Avec la problématique des emballages recyclables, réutilisables, c'est ça,
oui, en fait. Tout à fait. Alors là, nous, on n'est pas sur des modèles de réutilisation. Enfin, on est dans des modèles de réutilisation, c'est-à-dire qu'on va repasser, on va les rebroyer, on va les éclater, les laver, les sécher pour aller réintégrer dans la bouteille minérale.
Merci Frédéric d'être passé par le plateau de Tech & Co. Vous êtes le directeur général donc de cette belle boîte qui est Tomra, société norvégienne. Et merci à Étienne Braque.
Merci François.
Pour ce rendez-vous donc Euronext Tech Leaders. Ce Tech & Co est terminé. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment. On sera là demain mercredi, bien sûr. Déjà mercredi demain, 20h, 22h à la radio, à la télé. Portez-vous bien et à demain.